Mola, Archives Sonores.
Bonjour, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Michel Perrot pour son dernier livre, Histoire de chambre. C'est très, très difficile de présenter Michel Perrot. Hein, elle appartient finalement aux historiennes que l'on ne présente plus d'une certaine manière. C'est vrai. Moi, je reprendrai volontiers quelques éléments marquants. Le fait, tout d'abord, que vous êtes une spécialiste du 19e siècle, que vous avez travaillé sur les mouvements ouvriers, l'indélinquance, le système pénitentiaire. Et donc, je retiens de votre parcours quelque chose de particulièrement, forcément intéressant pour la philosophe que je suis, à savoir la collaboration avec Michel Foucault et cette fameuse table ronde de 1978, où vous aviez réuni avec Michel Foucault autour de la table Carlo Ginzburg, Arlette Farge, Jacques Revel, Maurice Agulon. Et donc je retiens aussi votre livre Les ombres de l'histoire, crimes et châtiments au XIXe siècle. Et dans ce livre, précisément ce que vous évoquez, à savoir les pistes ouvertes par Michel Foucault. Je retiendrai bien sûr aussi le travail conséquent et qui a marqué l'histoire du savoir sur l'histoire des femmes avec Georges Duby, l'histoire des femmes en Occident qui est vraiment une somme considérable, extrêmement utile en fait pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire des femmes. Et puis maintenant, donc, histoire de chambre que j'ai dévoré, que j'ai trouvé particulièrement intéressant et dont on peut dire que vous partez d'une question. Hein, la chambre est-elle le dernier refuge de nos secrets ? Mais plus encore, je trouve, beaucoup plus que cette question, votre livre s'enracine finalement, je dirais, dans un sujet dont vous dites vous-même au tout début qu'il est à la marge pour l'histoire, qu'il est d'une certaine manière étrange et donc suspecte. Et je trouve à ce titre le début du livre vraiment, vraiment parlant. Pourquoi ce livre sur les chambres, étrange sujet qui a surpris plus d'un de mes interlocuteurs, vaguement inquiet de me voir égaré dans ces lieux suspects. J'aime beaucoup cette idée que finalement la chambre serait un mauvais objet. Et finalement, on pourrait dire que c'est le côté un peu bad girl de l'historienne que vous êtes. En tout cas, c'est un objet obscur parce que, comme vous le dites, il renvoie à un certain goût de l'intériorité, souvent cultivé chez les jeunes filles, chez les femmes, hein, cette mystique, comme vous le dites très bien, des couvents de jeunes filles. Et j'ajouterais que vous revendiquez donc dans ce livre une écriture, je dirais, située, quelque chose d'ailleurs de très actuel, hein, ce recours à un savoir situé, finalement à une subjectivité qui écrit. Je trouve ça extrêmement actuel, parce que dans le domaine finalement de la réflexion actuellement sur le savoir, il y a quand même beaucoup de perspectives qui vont dans ce déploiement d'un savoir situé, en particulier dans certaines traditions aussi féministes précisément. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. Je dirais aussi que votre livre sur les chambres vaut comme la trace d'une chambre à soi. Il y a derrière tout l'hommage bien sûr à Virginia Woolf, et non d'une chambre en ville justement, ce qui vous oblige à discuter à travers ces histoires de chambres, chambre du roi, chambre à coucher, chambre particulière, chambre d'enfant, chambre des dames, chambre d'hôtel, chambres ouvrières, chambrée, chambre du malade, huis clos et chambre fugitive. On a là une typologie remarquable, ce qui fait que vous discutez, je dirais, les partages du privé et du public qui sont très différents selon les types de chambres justement que vous évoquez, qui sont très différents aussi selon l'époque. On pourrait donner plusieurs exemples qui vont dans cette direction dans votre livre. La chambre du roi, hein, qui constitue vraiment le début du livre après l'introduction, qui est investi par les deux corps du roi, bien sûr, physique et mystique, qui est à la fois un espace public, mais aussi l'un des services les plus importants de la cour. On pourrait ensuite évoquer, et qui donc, elle, est plutôt du côté de l'espace public, on pourrait évoquer la chambre des dames, longtemps comme enclave, mais dès la fin du XIXe siècle, comme vous le dites, cette aspiration des femmes à l'intimité, et donc toute cette construction de l'intimité à travers la chambre. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup cette expression de la fin du chapitre sur la chambre des dames, balcon du monde, hein, et vous citez là-dessus, on y reviendra peut-être dans les questions, Simone de Beauvoir, en disant que finalement, il n'y a pas de limite à l'imaginaire dans ce type de chambre, qui finalement est à voir aussi avec la question de la création, de l'écriture. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi le chapitre sur la chambre d'enfant, hein, dont vous rappelez bien combien elle est valorisée à partir du XXe siècle, comprise comme lieu maintenant de construction d'une identité, celle de l'enfant, par l'appropriation d'un territoire, mais avec de nouveaux brouillages. Et là, vous évoquez l'actualité d'une manière très fine, à savoir cette question de la garde conjointe des enfants, partagée entre les appartements des parents séparés. Ça, ça fera l'enjeu d'une question un petit peu plus loin. Donc finalement, la chambre, elle n'est pas si intérieure que ça. On pourrait citer aussi les chambres ouvrières, bien sûr. Elle n'est pas si intérieure que ça, ou plutôt, si elle porte en elle des sujets, et donc des formes de reflet de l'intériorité, elle n'en construit pas moins des identités, des linéaments de l'espace public, du genre sexué aussi, de l'appartenance également, une classe sociale, et je pense là vraiment à tout le chapitre sur les chambres ouvrières. Donc finalement, un livre qui interroge, la question des partages entre le public et le privé à l'occasion de la question des chambres, ça c'est quand même assez audacieux. Un livre qui à certains égards est très actuel, sur les nouveaux partages qui se jouent par exemple, et dont la chambre est précisément un révélateur. Et un livre, je dirais, qui est investi discrètement par deux références philosophiques majeures. Et je crois que je commencerai ma série de questions par ces deux références. D'un côté, De Certeau et sa compréhension de la vie ordinaire comme bricolage. Vous rappelez que la chambre est largement, de ce côté très inspiré de Certeau, des mille manières de braconner qui tissent l'invention du quotidien. Donc, à partir de Certeau, quelle invention du quotidien dans la chambre. Ça, c'est la première question en référence à ce fantôme, on pourrait dire, de Certeau dans votre livre. Et puis, la deuxième référence aussi très, très, très présente, comme ça, sous la forme du spectre ou du fantôme, ce serait Michel Foucault. Tout d'abord, par cette référence, je dirais aux mauvais objets. C'est-à-dire aux objets qui ne sont pas transparents, qui sont aux marges des disciplines, mais qui en même temps font venir au centre. Et il me semble que là, vous rejoignez bien une perspective héritée de Foucault. Travailler à la marge, à partir, entre guillemets, des mauvais objets, pour revenir au centre. Ça me semble essentiel. Alors, est-ce que vous seriez d'accord là-dessus? Et ça me conduit, à partir de Michel Foucault, à une autre question. Ça me conduit à un petit texte de Michel Foucault sur les hétérotopies. Michel Foucault, dans ce petit texte, dit que les hétérotopies sont des espaces différents qui sont la contestation des espaces où nous vivons. C'est-à-dire, ce qu'il défend avec l'hétérotopie, c'est une science des espaces absolument autres. Alors lui, il donne des exemples comme le cimetière, la maison close, le village de vacances, le musée également, donc des choses très disparates et qui précisément ne sont pas des utopies, c'est-à-dire ne sont pas des non-lieux, mais qui sont des espaces autres. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que finalement la chambre fonctionne comme une hétérotopie? c'est-à-dire comme un lieu que la société ménage, mais dans ses marges. Voilà, voilà pour les premières questions. Et puis, elles sont un peu... enfin, et puis après, on reprendra, si vous voulez, le texte, qui est vraiment superbe.
D'abord, je voudrais vous remercier d'être là, par ce mauvais jour de pluie. Je voudrais remercier Fabienne Gruber de m'avoir présenté comme elle l'a fait, parce que ça représente une lecture déjà très fouillée du livre. Donc, véritablement, merci beaucoup. Comme vous le pensez bien, je n'ai pas du tout l'intention, je ne suis pas là pour ça, pour faire une conférence, mais justement pour répondre à vos questions et évidemment à celles du public. Mais je partirai de vos questions. Vous êtes philosophe et par conséquent, vous avez sur les chambres un regard philosophique, j'allais dire, qui m'enchante.
Merci. Hein,
il m'enchante absolument parce que vous avez rappelé tout à l'heure que quand je disais aux gens, les gens qui vous demandent sur quoi vous travaillez, bon, sur les chambres, franchement, en général, ils me disaient « Oh là là, mais... » Pourquoi ? Qu'est-ce que vous faites là ? Enfin, c'était toujours un petit peu marginal, effectivement. Donc, que vous ayez pris cet objet au sérieux et que vous en ayez fait du livre une lecture philosophique, ça me plaît infiniment. Alors, vos questions. De Certeau, Michel de Certeau. En effet, Michel de Certeau, l'invention du quotidien est un livre magnifique. Et il montre que c'est dans les petites, ce que Foucault appelle d'ailleurs les petites tactiques, hein, là en l'occurrence les petites tactiques de l'habitat, que se construit la vie quotidienne des gens. C'était ce qui m'intéresse beaucoup chez de Certeau, c'est à la fois son intérêt pour la mystique, hein, et pour les grands auteurs du XVIIe siècle, et en même temps son très grand intérêt pour les modes de vie les plus quotidiens. Donc, à tout point de vue, dans les deux registres, de Certeau me paraissait en effet quelqu'un de très important, enfin, et à suivre absolument. Oui, bien sûr, la chambre est un lieu d'invention du quotidien. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, on y reviendra peut-être dans la suite des questions ou des échanges, dans la chambre, c'est d'une part l'espace, on va y venir avec votre question sur les hétérotopies, et les expériences. Hein. Ce que les gens, hommes, femmes, enfants, paysans, ouvriers, bourgeois, prisonniers, amoureux, enfin, etc., etc. Ce que les gens font avec la chambre. Hein, c'est donc c'est l'importance de ces expériences qui m'a paru un des fils conducteurs du livre, en quelque sorte. Donc oui, dans la chambre, la chambre est une boîte, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je voulais, sur la couverture, qui n'est pas du tout ça, la couverture, c'est en réalité le tableau de Van Gogh, la chambre d'Arles. Hein, mais au début, moi, j'aurais voulu une boîte. Mais l'éditeur n'a pas agréé à cette idée parce qu'il la trouvait trop abstraite. Et il me disait, dans les librairies, un éditeur pense forcément... Et Dieu merci, en termes de librairie, les gens verront histoire de chambre et une boîte. Ils diront qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Mais en réalité, si on y réfléchit, oui, la chambre est une boîte. Hein. Plafond, parquet, les murs, et tout ce qu'on peut faire avec ça. Et c'est les vies qui s'inventent dans ces espaces-là. Alors ça, c'est ça qui m'a en effet beaucoup, beaucoup intéressé. Foucault, bien sûr Foucault, tellement présent, pas à chaque page, on ne va pas non plus se référer perpétuellement aux grands auteurs, mais beaucoup dans la pensée, dans la réflexion. D'abord, la notion d'espace limite que vous avez évoquée. Foucault a toujours beaucoup travaillé sur les espaces limites. Quand il prend la prison, hein, il dit « mais c'est un espace qui est limite ». Les prisons, on les élimine du centre des villes de plus en plus. Enfin, autrefois, elles y étaient, mais elles n'y sont plus. Et on veut les bannir de la pensée. Hein, on ne veut pas les connaître. Mais en réalité, cet espace limite, il est central. Hein, et on revient, en effet, à votre question limite-centre. Hein. Et pour moi, la chambre, en effet, est un espace limite, un espace qui n'a pas été tellement saisi par les historiens. De ce point de vue-là, je suis très contente de mon invention, si vous voulez. Il y a des sociologues qui ont travaillé sur les chambres. Il y a des architectes, bien entendu, qui ont travaillé, et par conséquent, des sociologues de l'habitat. Les historiens l'ont fait dans le cadre de la vie privée. Hein, mais comme j'avais beaucoup travaillé dans l'histoire de la vie privée, j'étais tout à fait dans mon domaine. Mais moi, ce que j'ai voulu faire, c'est la prendre vraiment comme objet, si vous voulez. Vraiment comme objet absolument central. Alors, science des espaces, hétérotopie, science des espaces autres, au-delà, la formule de Foucault, bien entendu, me convient tout à fait. Vous avez cité des textes de Foucault à cet égard. Il y en a un, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est quand il parle des petites tactiques de l'habitat. Il a cette phrase où il dit que voilà, il faudrait aussi étudier cela, les petites tactiques de l'habitat. Ça m'avait toujours un peu intrigué, intéressé. Mais les petites tactiques de l'habitat, ça veut dire, au fond, dans une maison, dans un appartement, comment est-ce que se fait le partage, les rencontres ou les fuites entre eux, les hommes, les femmes, les domestiques, les patrons, les bourgeois, si vous voulez, etc. On pourrait naturellement multiplier. Et le micro-espace de l'habitat, la chambre dans la maison, alors là, vraiment, on arrive au micro-espace. Au fond, je reprendrai ce que j'ai dit pour les femmes, la chambre est un balcon du monde. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé. Je voulais... Ce livre a mûri lentement, à la vérité. Je l'ai fait surtout, au bout du compte, pour me faire plaisir. Hein. En réalité, c'est ça. C'est un livre où je me suis fait plaisir. Vous savez bien par cœur, dans nos métiers, on répond souvent à des demandes. Hein. On est dans des ouvrages collectifs, on fait des articles de ci, de là. Mais là, un éditeur me demandait d'écrire quelque chose pour lui, et quoi. Et un jour, je lui ai dit, je ferais bien quelque chose sur les chambres. Mais les chambres, je les avais croisées et jusqu'au jour où j'ai justement décidé d'en faire mon objet central. Voilà. Et par conséquent, c'est vrai que la réflexion... mon livre n'est pas un livre de philosophe. Je n'ai aucune prétention dans ce domaine. Hein. Je ne suis pas une philosophe, je suis une modeste historienne. Mais la réflexion philosophique est quand même... ça aide à être moins empirique, si vous voulez. À ne pas être complètement empirique, à avoir quand même des axes de réflexion. Et autour de la chambre, si on ne veut pas, évidemment, sombrer dans les petits détails. Les petits détails ont leur importance, c'est très important. Mais quand même, vraiment, le public, le privé, j'ajouterais le collectif et l'individuel. Vous avez parlé de la chambre particulière, qui n'est pas la chambre conjugale, qui est vraiment l'expression chambre particulière, d'ailleurs date du 18e ou quelque chose comme ça. Et c'est par là, au fond, que l'individu construit son espace, véritablement, hein, et revendique son espace à soi. Vous avez parlé de Virginia Woolf, bien entendu, et ce texte célèbre, mais au fond, il y a beaucoup d'autres qui revendiquent leur espace à eux. Et c'est Walzer, je crois, qui dit « L'espace le plus démocratique dans les sociétés de masse, au fond, c'est la chambre d'hôtel. Hein ?» C'est vraiment la chambre d'hôtel, celle que on peut s'approprier avec plus ou moins d'argent, naturellement. On a des chambres plus ou moins modestes, mais où malgré tout, on a la clé. Et là, même si on n'a pas une maison, un appartement, on peut avoir un espace à soi dans la chambre d'hôtel. Et je trouve que cette réflexion me paraît importante. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos premières questions. Maintenant, j'espère que vous allez me poser d'autres.
Si, vous avez très bien répondu. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne finalement quelques modèles de chambres, enfin, oui, quelques typologies, puis après sans doute que parmi vous, il y aura d'autres modèles aussi qui surgiront. J'avais envie de repartir en fait des chambres ouvrières, parce que ça c'est un point aussi qui est extrêmement intéressant dans votre livre, parce que vous dites bien au début du chapitre, bon, tout d'abord, les chambres ouvrières sont énigmatiques plus encore que les autres, donc déjà, pourquoi sont-elles vraiment plus énigmatiques que les autres? Et puis, deuxième chose, vous dites tout de suite dans la suite du texte, un petit peu plus loin, elles sont partie prenante d'un problème social, celui du logement. Et donc, vous revenez juste après sur cette question du logement. Et donc, j'aurai là-dessus une deuxième question. Si les chambres ouvrières sont vraiment partie prenante du problème social du logement, alors comment se construit à travers la chambre, la revendication d'un espace à soi. Comment du coup ça peut s'élaborer dans la figure des chambres ouvrières précisément, puisque elles sont extrêmement dépendantes de la question sociale du logement. Comment du coup pour vous, mais c'est quelque chose d'ailleurs que vous expliquez dans le chapitre, mais j'aimerais bien que vous y reveniez. Comment du coup à travers l'histoire peut se faire dans ces chambres ouvrières la revendication d'un espace à soi.
Chambres ouvrières. Bien entendu, c'est les chambres ouvrières, je les avais rencontrées dans mes travaux précédents, oui, puisque, comme vous l'avez rappelé tout à fait au début, ça a été quand même mon terrain de travail, le monde ouvrier d'abord. Et je les avais beaucoup rencontrées en me disant il faudra que j'y revienne. Parce que c'est quand même un peu énigmatique cette la question de l'espace privé des ouvriers en quelque sorte. Alors je dis au début du chapitre qu'elles sont énigmatiques et presque plus que les autres. Oui, ouais. Parce que le monde ouvrier, il est l'objet d'enquêtes sociales, hein, d'un regard social. Et ce regard social qui cherche à connaître la réalité ouvrière, le problème social ouvrier, construit tout un savoir, mais un savoir un peu extérieur. Et par moments, alors qu'on a énormément d'enquêtes, on a probablement plus de données sur les chambres ouvrières, je vais peut-être m'en expliquer d'ailleurs une seconde, que, mettons, sur les chambres bourgeoises. Pourquoi ? Parce que au fond, on ne pénètre pas vraiment dans l'habitat bourgeois. C'est leur affaire, hein. C'est la vie privée. Vous connaissez la définition, enfin peut-être pas, mais la définition que Littré, le grand dictionnaire du 19e, donne de la vie privée. La vie privée doit être murée, hein, le mur. Nul ne doit chercher à savoir ce qui se passe dans la maison d'un particulier. Parce que, une définition tout à fait intéressante, très, pour un historien comme pour, j'imagine, un philosophe. Alors, ça veut dire que la maison, elle a des murs, elle a une porte, et puis, voilà, les gens après se débrouillent, et puis on n'a pas à pénétrer, surtout pas dans les chambres. Le salon encore, le salon, c'est un espace mi-public, mi-privé, bien entendu. Mais les chambres, c'est dans le fond de la maison, de l'appartement, et on n'y intervient pas. Donc, dans les chambres bourgeoises, des chambres bourgeoises, on sait beaucoup de choses, mais ce que nous disent les journaux intimes, ce que nous disent les correspondances familiales, ce que nous racontent les autobiographes quand ils évoquent notamment leur enfance ou leur adolescence et qui parlent de la première chambre qu'ils ont eue, ça c'est très important. On le sait par eux. Des chambres ouvrières, on sait des choses par les enquêtes, mais ces enquêtes, elles répondent à des questions que se posent les enquêteurs et qui finit quelquefois par créer un peu un masque devant l'intime. C'est pas cet intime qu'ils observent, ils finissent, les enquêteurs, par les envelopper dans leurs mots et dans leurs propos, et du coup, on a envie d'en savoir plus sur les ouvriers. Je vais vous donner un exemple précis. Je me suis beaucoup servi d'enquêtes de monographies ouvrières qui ont été faites par ce qu'on appelle l'école de Le Play. Le Play, Frédéric Le Play, C'était pas n'importe qui, Frédéric Le Play, c'était un ingénieur des mines, donc quelqu'un d'extrêmement cultivé, raffiné, et en même temps, il était catholique social. Et donc très préoccupé, le plein milieu du 19e. Hein. Donc son problème, c'était la classe ouvrière, résoudre la question ouvrière. Et il avait voyagé beaucoup en Europe, et puis il avait ensuite décidé que c'était surtout en France qu'il fallait qu'il travaille. Et pour comprendre le monde ouvrier, fallait faire des enquêtes sur les familles. C'est pas ? Fallait prendre des familles dans leur lieu, enquêter sur elles. Et c'est extraordinaire, parce que les enquêteurs restaient un mois, je ne dis pas tout le temps, mais tous les jours venaient voir la famille, notamment la ménagère, pour voir comment on gagnait l'argent, on le dépensait, et puis chemin faisant, comment ils logent, quel est leur espace. Et la plupart du temps, cet espace était en effet une pièce. Et dans les monographies de Le Play, il y a donc, et de l'école de Le Play, il y a des descriptions extraordinairement précises de la pièce dans laquelle vivent les ouvriers. Elle fait tant, on disait pas mètre carré au 19e, on mesurait en cubage d'air, parce que c'était toujours l'idée que c'est l'air qui est important. Là, bon, alors elle fait tant de cubages d'air, elle a une fenêtre, elle a une cheminée, et puis les meubles. Il y a un lit pour les parents, trois lits pour les enfants. Je dis un peu n'importe quoi, mais c'est quand même un peu comme ça. Il y a une commode. Et cette commode, c'est les ouvriers, le patron, le maître de famille qui l'a apporté de son village natal. Il y a des tableaux, enfin, ou des photos, peu importe. C'est donc extraordinairement précis et intéressant. Et là, c'est vrai qu'on peut tout de même retrouver des expériences concrètes du monde ouvrier. Mais malgré tout, il y a un regard assez moralisant hein, sur ces familles ouvrières, avec toujours la grande question, un peu toujours la même, de la sexualité. Ces gens sont tous dans une même pièce, comment couchent-ils ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas des incestes ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que les enfants ne doivent pas voir, etc. Donc, il y a une espèce de préoccupation morale qui finit par vous rendre les ouvriers presque étrangers. Voyez, c'est pourquoi, à la fois, ces enquêtes sont formidables. Elles nous donnent des éléments qu'on n'aurait jamais eus. Et en même temps, elles sont comme un regard porté sur des gens qui sont tout de même considérés comme des étrangers. Bon, à juste titre d'ailleurs, c'est un peu normal de la part des enquêteurs. Mais c'est ça qui fait qu'il y a une espèce d'opacité du social. Le social finit par créer, alors même qu'il voudrait connaître, un espèce de mur entre l'objet et soi. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, comment se construit la revendication d'un espace à soi dans un monde ouvrier ? Alors ça, c'est une histoire intéressante, bien entendu. Un ouvrier qui arrive en ville, mettons, au 19e, c'est comme un migrant, aujourd'hui, qui arrive dans nos villes de l'étranger, un immigré, en quelque sorte. Bon, la première chose à faire, c'est où est-ce que je vais dormir ? Hein, où est-ce que je dormirai ? On dort d'abord avec d'autres, les chambrés. Au 19e, la réponse, c'est les chambrés. Hein, on va louer un lit, quelquefois même pour la moitié de la journée, car le lit est souvent loué la nuit, le jour, par un logeur, en quelque sorte. Et on est là avec beaucoup, plus ou moins, beaucoup. Donc c'est ça. Mais on souffre. Et beaucoup d'autobiographies ouvrières nous montrent, surtout au 19e, des ouvriers qui ne supportent plus de coucher avec un autre homme. Il y a Norbert Truquin qui a laissé une magnifique autobiographie, il dit ça. Il dit « Je ne supportais plus de dormir avec un autre homme, de sentir la sueur de l'autre, la respiration de l'autre. Bon. » Donc la deuxième étape, ça va être de prendre une chambre garnie. Alors, ce qu'on appelle une chambre garnie, c'est une chambre meublée. Hein, on trouvait des chambres meublées dans des hôtels ou chez des logeurs particuliers qui vous louaient. Dans la chambre garnie, ça va déjà un peu mieux parce qu'on y est soit tout seul, soit généralement avec sa famille, hein, avec sa femme, ses enfants, mais on a au moins un espace à soi. Mais malgré tout, on est obligé de remettre la clé au logeur. Et le logeur vient de temps en temps inspecter pour savoir comment vous êtes si vous êtes propre, si vous êtes sale, si vous n'introduisez pas des animaux domestiques, etc., etc. Donc la troisième étape, c'est une chambre vide. C'est pas une chambre vide, le vide, la boîte. Pouvoir louer une boîte. Parce que dans cette boîte, on va pouvoir peut-être même mettre un papier au mur. Parce que c'est sale quand on arrive. Ces pauvres chambres ouvrières, elles sont dégueulasses. Hein. Mais si on a un tout petit peu d'argent, on va pouvoir acheter quelques rouleaux de papier. Le papier peint date du 18e et son invention a été d'abord pour le peuple. C'est pour les classes populaires. Les autres catégories sociales mettaient des tapisseries, mettaient des tentures en tissu, mais pas de papier. Tandis que les classes populaires, papier, c'est moins cher, naturellement. Et l'industrie du papier peint s'est développée comme ça, absolument. Donc, on va pouvoir tapisser la pièce. On va pouvoir amener cette commode de la campagne qui va peut-être vous rappeler le village. Et puis on va pouvoir organiser ce modeste espace quand vous voyez par exemple le roman de Zola, l'Assommoir. Entre parenthèses, j'ai beaucoup utilisé la littérature, on pourra peut-être en dire un mot tout à l'heure. Zola montre très bien comment le couple de Gervaise et de Coupeau, quand ils commencent à faire un projet de couple, ce qui est un gros progrès pour eux, parce que faire un projet de couple, c'est se projeter dans l'avenir. Hein ? Eh bien, il faut immédiatement un projet de chambre. On va louer une chambre. Et Zola raconte comment, en effet, ils vont louer une chambre. Et Zola raconte par le menu, mais Zola est un ethnologue aussi, d'où le fait qu'un historien peut en effet l'utiliser. Et on voit Gervaise et Coupeau qui mettent alors sur leur mur des lithographies. Ils achètent chez un, dans une brocante, des bustes de grands hommes, dont Béranger. Hein ? Bon, dont Béranger. Donc, ils essaient de faire de cette chambre quelque chose de chaleureux et en même temps, à leur manière, un peu un musée dans le fond, avec des objets d'art. Modestes objets d'art. Et puis, Gervaise met un rideau pour séparer le coucher de son petit garçon, le petit garçon qu'elle a eu d'un première union, de son couple. Parce qu'en effet, Gervaise, se respecter, c'est en effet que le couple, les parents, ne doivent pas, s'ils font l'amour, eh bien, le petit garçon doit pouvoir dormir tranquille, il ne faut pas le troubler dans son sommeil. Donc, c'est très raffiné, hein, c'est tout à fait raffiné, cela. Et c'est comme ça qu'en effet, on construit son espace à soi. Hein. Et comment, dans cette modeste chambre, on déploie des petites tactiques individuelles qui vont permettre de construire un espace à soi. Et cela, c'est ce déploiement de petites tactiques, je l'ai retrouvé dans l'habitat communautaire. Personnellement, je n'ai pas travaillé sur l'habitat communautaire russe, mais il existe des travaux là-dessus que j'ai utilisés. Et vous savez, comme moi sûrement, que quand, après la Révolution russe, il y avait un problème évidemment épouvantable de logement dans les grandes villes, et on a par conséquent réquisitionné les logements bourgeois. Et on en a fait des habitats communs. Donc vous aviez des appartements qui étaient transformés en logements communs. Et les gens devaient partager des pièces communes, cuisine commune, pièces d'eau éventuellement, communes, water commun, etc., etc., avec des horaires même, par exemple pour les water, il y avait des horaires qui étaient affichés à l'entrée, on connaît très bien tout ça par les études qui ont été faites. Et puis, dans la mesure du possible, on leur donnait une chambre à eux, mais à eux, attention, pour la famille, Donc, on se retrouve un peu dans le cas, en effet, que j'ai décrit avec cette différence qu'il y avait tous les autres autour. C'était quand même... Bon, ça a été une expérience catastrophique. Ceci dit, il y avait aussi des problèmes immédiats à résoudre. Ceci dit, ça dure encore. Il y a encore à Saint-Pétersbourg, à l'heure actuelle, environ 7% de gens qui vivent dans des habitats communautaires. Bon, alors ce qui m'a intéressé, à travers les études que j'ai pu lire à ce sujet, c'est... Comment est-ce que les gens essaient, envers et contre tout, justement, d'avoir un espace à eux dans les contraintes de l'habitat communautaire ? Comment est-ce qu'on peut affirmer son individualité à travers ces contraintes qui sont tellement fortes ? Voilà, un peu...
Oui, c'est effectivement, cette question des contraintes, vous montrez bien, elle est essentielle. Alors, si on revient, justement, du coup, sur la littérature, parce que c'est très intéressant, votre rapport, effectivement, votre rapport à la littérature. Parce que d'un côté, il y a la manière dont vous utilisez, à travers votre typologie des différentes chambres, la littérature... Donc ça peut être Zola, comme vous venez de le rappeler, c'est aussi Proust, avec bien sûr le fameux baiser de la mère au narrateur, à Marcel, forcément. C'est aussi Balzac, pour citer quelques écrivains. Mais il y a aussi autre chose dans votre rapport à la littérature, il y a finalement aussi ce deuxième modèle de la chambre pour écrire. Et la chambre pour écrire, bon, d'un côté, c'est Virginia Woolf, et puis c'est aussi tout un hommage rendu également, ainsi qu'à Virginia Woolf, à Simone de Beauvoir. Et Simone de Beauvoir, que vous faites intervenir à travers deux modèles de chambre, la première fois à travers justement la référence à la chambre particulière, et puis la deuxième fois à travers justement la figure de la chambre des dames. Donc ma question ce serait la suivante: est-ce que vous avez consciemment comme ça construit finalement deux rapports à la littérature, d'un côté la chambre dans la littérature et de l'autre côté la chambre pour écrire? Et est-ce que cette chambre pour écrire, là, c'est aussi par rapport à votre parcours, à votre travail sur les femmes, est-ce que cette chambre pour écrire, c'est une chambre pour les femmes écrivains finalement? Est-ce que vous revendiquez d'une certaine manière, j'irais, un modèle d'un modèle de chambre à proposer aux femmes qui veulent écrire? Est-ce que c'est bien à l'adresse des femmes? Et à ce moment-là, que diriez-vous du rapport entre la chambre et le bureau, par exemple?
Merci pour ces questions. Alors d'abord un mot sur la littérature. La littérature est pour un sujet comme celui-là, un voyage dans les chambres, hein, c'est une source absolument infinie, considérable, parce que les romanciers du 19e, surtout 19e, 20e évidemment, en parlent beaucoup, énormément. Si vous prenez les héroïnes anglaises du 18e, Jane Austen, enfin tout ce que raconte Jane Austen et tout ça, elles se toujours « je rentrais dans ma chambre ». Il y a toujours ce retour à la chambre qui est très important. Donc les romanciers sont des observateurs de la chambre. Vous avez parlé de Balzac. Balzac est un observateur merveilleux de la chambre, merveilleux, parce que pour Balzac, l'intérieur, pas seulement la chambre, était un révélateur de la situation sociale, des ambitions, du caractère, un peu comme les traits du visage. Vous savez, au 19e, il y a eu une discipline qui s'appelle la physiognomonie. La physiognomonie, c'était les traits du visage, la construction d'un visage dit le caractère des gens, leur mélancolie, leur optimisme, enfin bon, bref. Et Balzac, lui, il dit la même chose pour les chambres, pour les intérieurs. Les intérieurs sont des révélateurs, absolument. Par conséquence, il en parle beaucoup. Et pour l'historien, il y a évidemment des... Je n'aime pas utiliser tout ce que Balzac pouvait me dire sur les chambres. Il aurait fallu faire un livre, Les chambres de Balzac. Hein, ça, certainement, ça aurait été possible. Alors, j'avais d'autre part travaillé là-dessus parce que j'avais été sollicitée par Tony Moretti, qui est le frère du cinéaste bien connu, et qui a fait, il y a maintenant une dizaine, un petit peu moins, 8 ans, une grande histoire du roman. Italienne d'ailleurs, qui n'a pas été traduite en français. Moi, j'ai écrit en français, mon texte a été traduit en italien, mais malheureusement, l'ensemble n'a pas été traduit en français. Alors, pour lui, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup travaillé sur les romanciers, la plume à la main, pour traiter cette question de... Mais alors, c'était pas la chambre vraiment, c'était l'espace privé dans le roman. Mais évidemment, l'espace privé dans le roman, pour moi, ça m'a donné ensuite, justement, beaucoup d'idées et beaucoup de pistes pour les chambres. Donc voilà pour la littérature comme source. Maintenant, la chambre pour écrire. Je voudrais dire que la chambre pour écrire n'est pas seulement féminine. Hein. Et c'est pour moi une occasion de dire que si ce livre est marqué par mes recherches antérieures sur les femmes, et par le fait que je suis une femme, bien sûr, ce n'est pas un livre sur les femmes. Hein. C'est un livre sur tout le monde. Tout le monde, les hommes, les femmes. Hein. Bien entendu, il y a un usage féminin des chambres que je traite dans un chapitre spécial qui s'appelle « La chambre des dames », où j'essaie justement de voir tout ce qu'on peut savoir en histoire sur les usages féminins de la chambre. Mais enfin, la chambre, ça concerne tout le monde, absolument. Et notamment la chambre pour écrire. Car les premiers à, au fond, revendiquer une chambre pour écrire sont les moines. Et d'ailleurs, Alberto Manguel, dans sa magnifique histoire de la lecture, c'est un livre très très beau que je vous recommande, dit que la première représentation qu'il a trouvée dans le monde occidental de la lecture, c'est dans un manuscrit du 12e ou 13e, je ne sais plus, pardonnez-moi de peut-être me tromper sur le siècle, c'est un des deux, il voit dans une enluminure un moine représenté sur son lit, dans sa cellule, avec une couverture sur ses jambes, parce que visiblement il fait très froid, hein, ça ne doit pas être, la cellule n'est sûrement pas chauffée, donc il fait froid. Tout autour de lui, il y a des rayonnages avec des livres, et sur le lit, il y a d'autres livres, et il a une espèce de, oui, d'ardoise, si vous voulez, avec un stylet, et on le voit, livre ouvert et écrivant, comme s'il prenait des notes. Merveilleuse figure du lecteur et de l'écrivain. Et de l'écrivain, le moine sur son lit dans la chambre de sa cellule, où on voit que, en l'occurrence, dans l'occasion, la cellule est une chambre. La cellule, il en fait une chambre pour écrire. Hein, il n'a peut-être pas autre chose, et en tout cas, il a l'air très heureux. Manguel fait remarquer que ce moine, avec sa couverture et ses livres, sourit en quelque sorte, et que bon, oui, il fait pas peine à voir, il a l'air extrêmement content. Donc les écrivains hommes et femmes, et hommes d'abord, puisque c'est quand même les femmes ont suivi les hommes dans ce domaine-là, il y a eu des exceptions comme Christine de Pizan naturellement, et quelques autres, mais quand même massivement l'écriture a d'abord été un exercice masculin et de clercs d'abord, puis d'écrivains quand ils prennent... Alors donc c'est le souci des hommes aussi. Et d'ailleurs, les écrivains que je cite, vous les avez vous-même cités, que ce soit Proust, que ce soit Kafka, que ce soit Pérec, que j'aime énormément, ce sont des écrivains qui écrivent dans leur chambre, voire dans leur lit. Proust est un écrivain du lit. D'abord il est malade, hein. Et par conséquent, il aime beaucoup avoir ses oreillers dans le dos et une espèce de petit pupitre avec lequel il écrit. Et Kafka, lui, non, n'écrivait pas dans son lit, mais il écrivait la nuit et il écrivait dans une chambre calfeutrée quand il pouvait, parce que très souvent, il était d'un milieu modeste, alors il n'avait pas tellement de chambre à lui. Lui, il adorait aller à l'hôtel, parce qu'à l'hôtel, au moins, il avait un lieu pour écrire. Bon, donc... les hommes et les femmes. Mais les femmes, bien sûr, beaucoup, beaucoup. Pourquoi ? Parce que les femmes, dans la maison bourgeoise, n'ont pas de bureau. Le bureau est masculin. Vous avez dit chambre et bureau. Le bureau existe depuis longtemps, mais il a toujours été masculin. Et quand les femmes avaient des travaux intellectuels, eh bien, ou même simplement de correspondance familiale, pas spécialement intellectuelle, elles le faisaient sur un coin de la table de salle à manger ou dans leur chambre, ou dans la chambre conjugale. Et il y avait très souvent dans les chambres conjugales une petite table à écrire où les femmes faisaient la correspondance. Pas oublier que les femmes au 19e, à partir du 19e, sont en quelque sorte en charge de la correspondance familiale. Et puis où elles écrivent, les jeunes filles surtout, le journal intime, qui est un exercice très adolescent, mais encore plus féminin que masculin, malgré tout. Et puis alors, quand elles veulent écrire au sens de l'écrivain, alors oui, elles revendiquent, comme Virginia Woolf, une chambre à soi. Oui, là, il y a une revendication très importante. Alors, un petit mot encore de Simone de Beauvoir. J'ai été passionnée, très intéressée, j'aime beaucoup Simone de Beauvoir. Donc, elle dit dans ses mémoires énormément de choses sur les chambres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sur ce point, elle a eu des expériences communes avec Sartre, mais elle a aussi des expériences totalement différentes. Sartre ne voulait pas de chambre. Pour lui, c'était bourgeois. Ça renvoyait au couple conjugal, aux mœurs bourgeoises, et il était très hostile à la chambre. Et d'ailleurs, il a Roquentin dans la nausée, beaucoup de choses à cet égard, énormément de choses. Et lui, il écrivait au café. Simone de Beauvoir, quand elle est étudiante, elle est ravie de quitter le domicile de ses parents et d'aller dans Paris, dans une petite chambre, oui, assez modeste d'ailleurs, que sa grand-mère lui prêtait. Et elle commence l'évocation de ses mémoires, pas les mémoires d'une jeune fille rangée, mais après la force de l'âge, par cette installation qui, pour elle, est un accès à une autre vie. Voilà, elle était enfin dans sa chambre et elle pouvait fermer sa porte. Magnifique. Alors après, elle est prof. Et quand elle arrive, à la différence de Sartre, parce que Sartre, au contraire, lui, il voulait une chambre près de la gare et dont on entend le bruit des trains, justement, pour que vraiment le public pénètre vraiment là. Elle cherchait une chambre plutôt un peu isolée où elle puisse travailler, parce qu'une femme toute seule, non, elle n'allait pas encore comme ça toute seule travailler au café. Et quand elle arrivait chez une logeuse, elle regardait s'il y avait une bonne table. Elle la secouait un peu, nous dit-elle, pour voir si véritablement ça ne branlait pas trop. Et tellement l'écriture tenait déjà une place importante dans sa vie. Alors après, avec Sartre, ils ont beaucoup vécu à l'hôtel et écrit au café. Mais on observe que Simone, elle se lasse un peu du café parce qu'elle est tout le temps dérangée, surtout quand ils commencent à être connus. Et à ce moment-là, elle vient vers la chambre d'hôtel pour et il y a un passage formidable où elle dit « Ah, voilà, je suis dans ma chambre, j'ai pris mon après-midi dans ma chambre, je fume. » Elle fumait comme un sapeur, hein. C'était la grande époque où l'émancipation des femmes, c'était de fumer, bien entendu. Je fume, il y a les volutes de fumée autour de moi et ça me donne de l'inspiration, quoi. Voilà, elle raconte ça. Il y a vraiment des très très beaux passages là-dessus. Et puis ensuite, bon, vous connaissez la suite naturellement, elle a loué une chambre dans toutes sortes de lieux, enfin, notamment avec Lanzmann. Il y a toute une histoire des chambres de Simone de Beauvoir qui est tout à fait intéressante. Et qui...
Oui, que vous racontez bien, effectivement, dans le livre. Merci beaucoup, Michel Perrault.